Radio Foot International, Marie-Amélie Motte.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Foot International. Au programme aujourd'hui, la Juventus Turin reine d'Italie depuis dimanche, 9e Scudetto d'affilée pour la vieille dame. Pourtant, tout n'est pas rose du côté de Turin. Maurizio Sarri n'a pas convaincu pour sa première saison, tandis que la défense, notamment, pose question. On parlera aussi des Français de la Juve, Adrien Rabiot et Blaise Matuidi, et du duo d'attaque, évidemment. Paolo Dybala relancé cette année, et Cristiano Ronaldo à la lutte pour le titre de meilleur buteur de Serie A, et donc pour celui du soulier d'or. Niko Kovac à Monaco. Focus aujourd'hui dans Radio Foot sur l'entraîneur croate arrivé en principauté il y a 10 jours. A-t-il changé depuis son expérience au Bayern Munich? Quels peuvent être les objectifs de Monaco cette saison? Avec moi en studio aujourd'hui, Chérif Guémour. Bonjour Chérif.
Bonjour Marie-Amélie, bonjour à toutes et à tous.
David Lortolari est là également. Bonjour David.
Bonjour Marie-Amélie, bonjour à tous.
Et enfin Dominique Sévrac complète ce casting.
Bonjour, bonjour Marie-Amélie, bonjour.
Allez Radio Foot, c'est parti.
La Juventus ha vinto lo scudetto dopo aver battuto la Sampdoria 2-0.
Siamo noi! Le premier chiffre, c'est 1. Qui se dit 1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9.
9e scudetto, et regardez la joie de la direction, la joie de la Roya. Le titre est là, le titre est en poche. La Juve est championne d'Italie.
36e titre national pour la Juventus Turin, le 9e d'affilée donc après la victoire 2-0 contre la Sampdoria Gênes dimanche. Un nouveau but de Cristiano Ronaldo, on en parlera un peu plus tard. La Juve sacrée donc, et il ne faut pas banaliser sa performance. Elle a fait la course en tête de la Serie A pratiquement toute la saison et elle n'a plus lâché la première place depuis la 24e journée. Nous sommes en ligne avec Matteo Cioffi, notre correspondant en Italie. Bonjour Matteo.
Bonjour Marie-Amélie.
On est très content de vous avoir dans Radio Foot aujourd'hui. Comment est-ce que ce 9e titre de la Juve, 9e titre consécutif, donc, est-il accueilli en Italie?
Un des sentiments qui règnent dans l'opinion publique italienne est que la Juve a mérité ce scudetto, car en avoir remporté 9 d'affilée, c'est légendaire et montre que la soif de gagner de ce club ne connaît pas de limite. Tous les médias ont souligné cette rage de vaincre de la vieille dame, de ne se contenter jamais et de ne vouloir d'en vouloir toujours plus. Mais c'est vrai aussi qu'au bout du compte, que cette année, pour les adversaires, il y avait un coup à jouer, car les Bianconeri ont vécu une saison pas simple. Leur jeu n'a pas été toujours convaincant et surtout beau à voir. L'équipe a été souvent critiquée par une bonne partie de la presse qui l'a prévenue et lui a lancé un signal d'alarme qui peut se résumer en « Monsieur, si vous jouez comme ça, vous vous en sortez en Italie, mais en Europe, vous risquez gros, très gros ». Donc tout cela pour dire « Bravo la Juve, mais pas bravissime hein ».
Oui, contrairement à la plupart des années passées, la Juve a été bousculée cette saison. L'Inter Milan, la Lazio Rome et même l'Atalanta Bergame ont contesté la suprématie des Turinois. Chérif, est-ce que selon vous, c'est l'Inter qui avait les meilleurs arguments cette année pour contrer la Juve?
Bon, on l'a cru un moment avec leur force d'attaque. Ça avait commencé à être impressionnant, mais j'ai l'impression que toutes les équipes poursuivantes de la Juve ont manqué de régularité à un moment ou à un autre. Et le propre de la Juve, c'est qu'ils peuvent avoir des faiblesses, mais les faiblesses ne durent jamais très longtemps. Donc, au résultat final, finalement, bon, c'est un peu traîné sur la fin, mais globalement, ils ont gardé la tête pratiquement d'un bout à l'autre.
Dominique ?
Oui, à la fin, Marie-Amélie, les riches finissent toujours par gagner. Hein, c'est une morale qu'on peut retenir en football comme ailleurs dans la vie.
C'est pas si riche que ça, la Juve.
Bah, non, mais
c'est bien géré.
Allemagne, Bayern, en France, Paris Saint-Germain, même si c'est tour de tapis vert, bon, je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait que le Paris Saint-Germain est allé champion. En Angleterre, bon, ils sont tous un peu riches, donc là, c'est Liverpool, ça peut être City, bon, c'est Liverpool, c'est mérité. En Espagne, c'est le Real Madrid. Bon, bah voilà, il y a une permanence comme ça dans l'histoire, parce que 9 titres consécutifs, c'est hyper impressionnant. C'est quand même une donnée extrêmement rare. On peut pas dire c'est les pénaltys, on peut pas se moquer comme ça de 9 titres d'affilée. Donc c'est qu'il y a une permanence de l'histoire, il y a une force de l'histoire, une force de l'habitude qui est à la fois due au talent, au fait que c'est un club bien géré, bien structuré.
Ah, bien géré, bien structuré.
Évidemment.
C'est non, parce qu'il y a les autres équipes.
L'argent ne fait pas tout. S'il y a pas de compétences.
C'est ça que je disais.
S'il y a pas de compétences, voilà. L'argent ne sert à rien, en fait.
On est d'accord.
On l'a vu au Paris Saint-Germain, par exemple, pendant des années.
Et
on continue à le voir. Donc, évidemment que c'est un club hyper bien structuré. C'est un, le patron est un des moteurs en Europe du nouveau G14, de l'ECA, l'association des clubs européens. Donc voilà, c'est une formidable réussite.
Alors, Mathéo l'évoquait tout à l'heure. La Juve n'a pas totalement convaincu sur le terrain. Cette saison, Maurizio Sarri est pourtant arrivé il y a un an pour redonner un peu de lustre à la vieille dame, mais globalement on n'a pas été très enthousiasmé par le jeu proposé par la Juve. Matteo, qu'est-ce qui a bloqué chez Maurizio Sarri? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi à mettre en place un style de jeu un peu plus séduisant?
Bah, commençons par dire que dans le bien ou dans le mal, Maurizio Sarri a fait parler de lui certainement. Il faut reconnaître, c'est pas facile d'avoir pris la relève de Max Allegri et de ses 5 titres gagnés d'affilée. En plus, l'ancien coach du Napoli et a débarqué à Turin comme adversaire. Les tifosi de la Juve, encore aujourd'hui, ne l'aiment pas trop. Donc, c'est pas facile de travailler dans une situation comme ça. Du point de vue technique, Maurizio Sarri, qui est devenu quand même à 61 ans et 6 mois, le technicien plus ancien à avoir remporté un Scudetto, a tout de même gagné son premier pari qui, théoriquement, lui a permis de confirmer sa place sur le banc du club, au moins pour une autre saison. Le deuxième défi, on le sait bien, ce sera la Ligue des Champions et c'est dans cette compétition qu'il devra assurer son futur à la Juve. Certainement, on n'a pas vu le sarrisme et cette année, ce jeu flamboyant, ce jeu très rapide qu'on avait remarqué surtout à Naples. Et c'est pour ça que les dirigeants auront ce rôle de construire pour la prochaine saison une équipe qui est plus alignée à son système de jeu et à sa pensée. Car cette année, on a eu vraiment du mal à voir le jeu de Sarri s'exprimer au 100%. C'est aussi une question de joueurs pas facile de trouver, de faire avec énormément de talent dans une équipe un jeu à la Sarri.
Dominique Sévrac.
Oui, vous dites qu'il a validé donc son année supplémentaire sur le banc de la Juve, mais que ça n'est pas encore la Ligue des Champions. Donc s'il est éliminé contre Lyon, c'est fini pour lui?
Alors, le club a annoncé que après avoir gagné le Scudetto, Maurizio Sarri a mérité sa place encore pour une saison. Mais nous, les journalistes, qu'on a toujours quelque chose à croire de mauvais, on pense que en Ligue des Champions, les choses n'iront pas comme elles doivent aller pour Maurizio Sarri, le futur sera très incertain. Vous imaginez si Lyon élimine la Juve, qu'est-ce qui se passera?
Il y a déjà des noms qui circulent pour le remplacer éventuellement?
Bah, le grand rêve de la Juve depuis des années s'appelle Guardiola, mais c'est assez dur de pouvoir mettre les mains sur l'Espagnol. Non, pour l'instant, il n'y a pas de successeur, mais on le répète, le club a annoncé publiquement d'avoir confirmé Maurizio Sarri pour une autre saison. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de nom qui circule.
David Lortolari, un mot sur Sarri?
Oui, Matteo, la Juventus fait partie de ces clubs qui ont des supporters en nombre tout autour du monde, et il y en a aussi en France. Et ce que j'ai ressenti, moi, alors je voudrais savoir s'il y a un décalage avec l'Italie, c'est que les supporters de la Juve en France étaient évidemment fiers de ce nouveau titre, mais on sentait aussi une forme de normalité peut-être s'installer avec les 9 titres consécutifs. Presque, ces derniers sont peut-être presque blasés. Est-ce qu'il y a un décalage avec l'Italie? Est-ce qu'il y a plus d'enthousiasme peut-être vu d'Italie que de la part des supporters de la Juve à l'international? Matteo.
Non, je vous dis quelque chose qui a été une nouvelle. Pour la première fois, il n'y a pas eu de fête dans les rues de Turin pour fêter ce Scudetto. Les tifosi, il y en avait même pas une centaine dans la place centrale de Torino. Cela explique un peu, la réaction des tifosi vers ce titre. Vous savez, cette année, on a vécu un championnat vraiment très étrange, et pas seulement nous les Italiens. Donc ça a été aussi quelque chose lié au coronavirus. En Italie, on ne peut pas encore, créer des assombrements dans les places des grandes villes. Donc ça aussi, je crois que à la fin pousser les gens à rester chez eux, peut-être fêter le Scudetto avec un prosecco, voilà, un verre de vin, mais pas dans la rue. Et ça a marqué beaucoup l'opinion publique, le fait que on n'a pas vu de tifosi dans les rues. Ça, c'est étrange, mais c'était peut-être assez attendu.
Chef Guémont,
ouais, je vais revenir juste quelques petites précisions à mon sens sur ce qui nous blase, ce qui nous a un peu déçu avec cette Juventus. Bon, faut pas oublier quand même que c'est peut-être l'équipe qui a été la plus touchée par le Covid directement, avec la contamination de Dybala. Ça a été sérieux. Il y a Higuain qui a dû retourner en Argentine pour
réveiller
Matuidi, donc oui. C'est l'équipe qui a comme tout. Il faut pas oublier que la Juventus, c'est une équipe, et là je vais prendre Cristiano Ronaldo comme exemple, c'est des mécaniques de précision qui sont paramétrées, programmées pour des saisons très précises, avec une mise en route dans la deuxième partie, dans le dernier tiers de la saison. La Juventus qui s'arrête, comme toute l'Europe, au moment du coronavirus, ça dérègle complètement des mécaniques de précision. Un type comme Cristiano Ronaldo, je le vois en fin de saison, il a les joues creuses, il a le souffle court. C'est pas parce que c'est pas un bon professionnel, c'est rigoureusement le contraire. Sauf que lui, comme les autres, il a été atteint, il a été bloqué dans sa continuité. C'est une première chose.
Les critiques contre Sarri, elles émanaient avant le confinement. Hein.
J'y arrive. Il y a aussi d'autres choses. C'est de l'amalgame qui s'est pas bien fait encore pour l'instant, parce que la Juve, quoi qu'on en pense, c'est une équipe vieillissante. Alors je sais, vous allez me dire, oui, il y a Rabiot, il y a encore... Oui, mais l'équilibre n'a pas été trouvé entre les très jeunes comme Rabiot, De Ligt qui viennent d'arriver, et les joueurs plus anciens. Et la troisième chose qui est très importante dans la culture italienne, on s'inquiète toujours de la Juve, parce qu'en fait, bon, c'est quand la Juve éternue, c'est tout le football italien qui est malade. Faut pas oublier que la Juventus, c'est la matrice de l'équipe d'Italie. Donc, quand on voit l'équipe de la Juventus et qui est pas très très en forme, qui est pas assez convaincante, on s'inquiète pour l'équipe d'Italie. La Juventus est la matrice. N'oubliez pas, quand l'Italie est championne du monde, dans ses 4 titres de champion du monde qu'elle a eu, il y a 5 voire 6 joueurs minimum de la Juventus. C'est aussi pour ça qu'on est exigeant avec la Juventus.
Alors, l'un des points noirs à la Juve cette saison, c'est la défense qu'on a souvent vue assez fébrile. 38 buts pris en 36 journées, ça fait un petit peu plus d'un but encaissé par match. C'est beaucoup pour le champion d'Italie. Comment est-ce que vous expliquez cette fragilité défensive?
Il y a la mauvaise intégration de De Ligt, quoi. Il a fait une mauvaise saison, on peut le dire. Hein. C'est un espoir.
Il s'est pas imposé.
Il a été acheté 85 millions d'euros, je crois, à l'Ajax d'Amsterdam. Quand j'y reprends, c'est quand même une somme complètement...
Ah, c'est les prix, hein, maintenant?
Oui, mais pour un défenseur central, même
Van Dijk, combien Van Dijk?
Ça me paraît complètement fou, quoi. J'ai du mal à m'en remettre. Donc, je pense que ça s'explique principalement par ça, quoi.
Et Matteo, est-ce que l'absence de Giorgio Chiellini a pesé? Parce qu'il a manqué pratiquement toute la saison.
Ben, certainement, le poids de Chiellini, c'est important. Mais je voudrais seulement dire une chose, que pour ce qui concerne De Ligt, c'est vrai qu'il a eu pas mal de problèmes au début, mais tout à petit, surtout après le confinement, on a vu un joueur complètement transformé qui a su même donner un coup de pouce aux attaquants. C'est lui qui a marqué le but face à la Lazio, qui est un but très important, et c'est lui qui a deux jours a marqué le doublé de la Juve, qui a permis à l'équipe de battre la Sampdoria. Pour moi, le Néerlandais est vraiment monté en puissance et commence tout à coup à ressembler à ce magnifique joueur qu'on avait admiré l'année passée à l'Ajax d'Amsterdam. Donc oui, la faute à la défense certainement, mais 38 buts, c'est quand même la deuxième meilleure défense dans le championnat. Il pouvait être beaucoup plus, parce que le gardien Chesney a sauvé énormément de fois sa cage. Donc un bravo au gardien. Et pour ce qui concerne le point faible de cette équipe, à mon avis, cette année, ça a été le milieu de terrain, car il y a des joueurs qui ont eu vraiment du mal à comprendre le jeu de Maurizio Sarri et de s'intégrer dans le collectif.
Quels joueurs, pardon, Matteo?
Surtout le Gordon Ramsay qui...
Souvent blessé.
Voilà, un des joueurs plus chers de la Juve, car il a un cachet de 7 millions d'euros et qui a été vraiment une grosse déception, dont lui surtout, mais aussi Rabiot qui a commencé très mal l'année, c'est vrai, un peu sur la même ligne de Delict, le Français, a joué une deuxième partie de championnat, lui aussi après le confinement, assez positif. On se rappelle ce magnifique but qui n'a rien servi, mais qui a été quand même magnifique
face
à l'AC Milan, qui a montré que ce joueur a de la technique et on sait de quoi il parle.
Ouais, 9 titularisations sur 10 matchs depuis la reprise pour Adrien Rabiot. Écoutez ce que dit Maurizio Sarri à propos du milieu de terrain français.
Rabiot est un joueur très fort.
Rabiot est un très bon joueur avec de grandes qualités physiques et techniques. J'en ai pas vu beaucoup capables de courir avec le ballon comme lui. C'est un homme réservé qui vient d'un autre type de championnat et de football. Il lui a fallu quelques mois pour comprendre la Juventus et le style de jeu italien, mais maintenant, il se débrouille très bien. Ce qu'il a vécu, c'est arrivé à beaucoup de joueurs étrangers au cours de leurs 6 premiers mois en Italie. C'est normal. Aujourd'hui, il montre ses qualités et sa grande personnalité. Il joue avec beaucoup de confiance et de calme.
Dominique, c'est un sacré compliment de la part de Sarri. Je n'en ai pas vu beaucoup capable de courir avec le ballon comme lui.
Oui, il a ciblé la principale qualité de Rabiot, ce port de tête altier qui fait que voilà, il peut courir avec le ballon tout en regardant le jeu. Sa vision du jeu, c'est un des points forts d'Adrien Rabiot. Il y a sa frappe aussi du pied gauche. Et il y a son sens de la passe. Voilà, il y a. Le reproche qu'on peut lui faire, c'est parfois un peu de nonchalance. Et puis là, Maurizio Sarri, il l'a peut-être dit une autre fois, pas lors de cette conférence de presse-là, mais Rabiot, il sortait de 6 mois sans jouer avec le Paris Saint-Germain. Il avait été mis à la cave, puni parce qu'il n'avait pas voulu prolonger. Donc depuis décembre 2019, il ne jouait plus au moment où il rejoint décembre 2018, quand il rejoint la Juventus, donc en 2019. Donc il avait 6 mois à rattraper, et ça, c'est compliqué. Il n'y a que les matchs qui peuvent vous permettre de rattraper votre condition physique.
Est-ce qu'il a apprécié au sein du vestiaire Matteo Cioffi, Adrien Rabiot?
On n'a pas vraiment apprécié son retard après le confinement, car Rabiot a été le dernier joueur à rentrer à Turin. Et je me rappelle, on en avait parlé même à Radio Foot International, de cette chose-là n'avait pas plu aux dirigeants, qui, d'une certaine façon, avaient fait comprendre aux joueurs qu'à la Juve, il y a un règlement, il y a des règles qu'il faut respecter, et si on ne le respecte pas, ça se termine l'aventure. Je crois que Rabiot a compris le message et on l'a vu sur le terrain parce que, à mon avis, ça a été vraiment un autre joueur par rapport à celui qu'on a vu très peu en début de saison.
La montée en puissance d'Adrien Rabiot va desservir nécessairement Blaise Matuidi ?
Pas forcément, mais de toute façon.
Ils peuvent jouer tous les deux. Ils ont déjà été alignés.
Il peut jouer à droite, Rabiot.
Oui, c'est ça, donc,
Pjanic derrière, en milieu à trois.
Tout ce qu'il veut, c'est pas être sentinelle.
Voilà.
Ça, il le fait écrire dans ses contrats.
Et c'est l'un des problèmes, quand on parle des problèmes de la défense de la Juventus, c'est qu'il n'y a pas un vrai récupérateur, ou alors il y a Bentancur, il s'est cramé. Rabiot, par contre, lui, il apporte justement ce 109 qui manquait à la Juve, mais c'est pas suffisant. Maintenant, pour revenir sur d'autres problèmes défensifs, ça concerne toute l'équipe. La Juventus, c'est une équipe qui fait pas de pressing. C'est les joueurs qui restent à peu près sur la ligne médiane, qui vont pas chercher le ballon. Donc, mais ça va leur poser des problèmes, même contre Lyon. Parce que Lyon, c'est un peu plus jeune, ils y croient. La Juventus, pour moi, n'est pas qualifiée, au jour d'aujourd'hui, ils sont pas qualifiés contre Lyon, quoi. Parce que Lyon, c'est vraiment une équipe.
Ils sont même éliminés au moment où on se parle.
Ils sont éliminés au coup d'envoi, tu as raison.
Matteo, un mot sur Arthur qui arrive de Barcelone alors que Miralem Pjanic va faire le trajet en sens inverse. La Juve ne perd pas au change.
On le verra. C'est vrai que Pjanic a été pendant 3 années un joueur fondamental pour la vieille dame. Et il y a beaucoup de tifosi qui n'ont vraiment pas aimé le choix des dirigeants de le remplacer avec quelqu'un dont on connaît pas trop encore sa réelle qualité. Mais on le verra. C'est sûr que, comme je disais avant, il faut un peu reconstruire cette équipe à l'image de Maurizio Sarri. Je crois qu'Arthur pourrait en effet répondre à ce désir de créer une Juventus à la Sarri. Donc, il faudra voir, mais ça va pas être facile pour lui de remplacer, de faire oublier quelqu'un comme Pjanic, ça c'est sûr.
Bon, après avoir parlé de la défense et du milieu, on va quand même parler de l'attaque. Paolo Dybala, avant de passer évidemment à Cristiano Ronaldo, mais Paolo Dybala, donc l'Argentin de 26 ans, il conclut sa 5e saison à Turin. Jusqu'à présent, il n'avait jamais vraiment fait l'unanimité. Est-ce qu'on peut dire que voilà, cette année c'est bon, Dybala n'est plus contesté, Chérif?
Non, il a fini par s'imposer. Bon, après, bon, il y avait quand même devant, il y a du monde, il y a Higuain, il y a Bernardeschi, donc il s'est tourné un petit peu. La vérité, c'est qu'il n'a pas non plus fait que des super matchs, Dybala. Et par contre, quand il a été décisif, il l'a été. Et puis cette saison, il s'est mieux senti. Il s'entend très bien avec Cristiano Ronaldo. Donc l'un dans l'autre, ça finit par faire une bonne saison.
David, il est apprécié Dybala à la Juve.
Ah, pour moi, c'est le partenaire idéal pour Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas si dans sa longue carrière, Ronaldo a pu compter sur un joueur de cette qualité.
Benzema, Matteo, attention, on est en France là.
On peut rien dire là, vraiment. Hein. Vous êtes susceptible. Bon,
en plus, il est argentin, Dybala.
Ouais, non, mais honnêtement, pour Dybala, moi, je suis content pour lui parce que vous vous rappelez l'année passée, l'été dernier, on l'avait déjà donné partant, était déjà sur le mercato, prêt à quitter le club, puis le club a décidé de lui donner une autre chance, et il a été vraiment l'homme capable d'une minute à l'autre de changer le cours d'un match avec ce pied gauche magnifique, mais fatal pour les adversaires. Donc, Paul Dybala, vous le disiez, vous me demandez avant l'émission, Marie-Émilie, si on doit parler d'une révélation, peut-être c'est Paul Dybala qui a fait beaucoup plus de ce qu'on croyait qu'il pouvait faire. C'était en plus, vraiment, je répète et je le souligne, le partenaire idéal de CR7.
Et on sait s'il pourra jouer, oui, parce qu'il est incertain contre Lyon et pour la Ligue des Champions. On sait s'il va pouvoir être rétabli.
On lui a dit maintenant qu'il doit se reposer pour une dizaine de jours et puis tout à petit recommencer. Ça, à mon avis, ça va pas être facile, mais il fera de tout pour être sur le terrain. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est 10 jours de relax et puis reprendre. C'est rien de grave, mais ça risque d'aller au-delà du match face à Lyon.
Ouais, les adducteurs, ça peut être handicapant quand même, hein, à ce niveau-là, surtout en n'ayant pas beaucoup de matchs dans les jambes, ça peut être un souci, ouais.
Mais c'est bien les adducteurs. Parce qu'il a joué quand même titulaire tous les matchs, donc il est entraîné. Je crois que du point de vue physique, il est très entraîné. C'est vrai, les adducteurs, c'est quelque chose qui pourrait cacher quelque chose de plus grave, mais bon... Aussi Sarri a dit que pour lui, c'est rien vraiment de très grave. On le verra, on en saura plus dans les prochains jours.
Si on est honnête, Matteo, on doit dire qu'il devait égaliser à Lyon lors du match aller. Le 8e de finale, il avait fait une deuxième période quand même de très haut niveau quand même.
Vous vous rappelez que le match de la Juve à Lyon a été le pire match de l'équipe de cette saison. Il y a personne qui s'est sauvé, donc on peut pas juger un joueur pour un match qui a été complètement raté de la part des joueurs, mais c'est même de la part de Maurizio Sarri, qui n'a rien compris au système de jeu des adversaires.
Bon, on aura l'occasion de parler de la Ligue des Champions évidemment dans les jours à venir dans Radio Foot. Un mot quand même sur Cristiano Ronaldo, 31 buts en championnat cette saison. Matteo, est-ce qu'en Italie on considère que le rôle de Ronaldo a été déterminant pour le titre, ou est-ce que c'est un petit peu plus nuancé?
Bah, il faut être fou pour pas reconnaître son rôle dans ce Scudetto, car vraiment Cristiano Ronaldo a été le grand metteur en scène. C'est vrai, il a eu quelques petits passages à vide, mais il a été presque toujours décisif. En plus, maintenant pour lui, il y a ce défi de le lier au fait de gagner le soulier d'or. C'est un prix auquel le Portugais tient beaucoup, et on l'a vu face à la Sampdoria lorsqu'il a marqué le premier but sur penalty. Il a vraiment fait exploser toute sa joie, comme à dire, hey, les gars, moi je veux gagner ce prix-là, même si ce sera pas facile, car Ciro Immobile est devant lui. Et bon, il reste encore deux matchs. Pour l'instant, c'est Lewandowski qui est premier au classement. Ils ont les mêmes buts, 34 buts comme Immobile, tandis que Ronaldo en a 31. Il reste encore deux matchs en Italie à jouer. On verra ce qui se passera, mais je peux vous confirmer que Cristiano veut ses prix et veut enrichir son déjà riche palmarès.
On va parler tout de suite du soulier d'or. Matteo, il est temps de vous libérer. Merci beaucoup et à bientôt dans Radio Foot.
Merci à vous et bonne soirée.
Ciao.
Ciao, Matteo.
Ciao.
Alors voilà, Matteo vient de l'évoquer, Cristiano Ronaldo veut remporter le soulier d'or cette année. Il n'est évidemment pas le seul et surtout il est en retard sur ses concurrents.
Par le Bayern Munich, 24e minute.
Immobile, le tir d'Immobile. Quelle réalisation splendide de Giro Immobile pour s'envoler au classement des buteurs.
Ballon, voilà, bien joué avec Cristiano.
Un but signé Cristiano Ronaldo à la 52e minute. Mais oui, il est là, le meilleur joueur de la planète.
Alors, il n'est pas temps de relancer l'éternel débat sur qui est le meilleur joueur de la planète. En revanche, on peut lancer celui sur le meilleur buteur européen de la saison. Donc, je le rappelle, le soulier d'or récompense le meilleur buteur d'Europe en championnat. Lionel Messi a remporté les trois derniers trophées. L'Argentin compte 6 souliers d'or contre 4 pour Cristiano Ronaldo. Le Portugais veut absolument gagner cette année. Sauf que, problème, donc je rappelle ce que Matteo l'a dit rapidement, il compte 31 buts pour l'instant, derrière Immobile et Lewandowski, qui en compte 34, David.
Oui, ça c'est la forme, mais alors sur le fond, enfin, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, c'est une blague, c'est une plaisanterie. 31 buts pour Cristiano Ronaldo, moins 12 pénaltys, ça fait 19. Donc il a marqué 19 pauvres buts sur une saison qui compte déjà 35 ou 6 journées, alors qu'en Allemagne, il n'y en a que 34 de journées. Donc soit on fait les choses correctement, et on pondère en fonction du nombre de journées par pays, et on pondère peut-être, alors je sais pas, 0,5, 0,75,
bah, Lewandowski, c'est 34 buts, 31 matchs.
Bah déjà, c'est peut-être plus parlant que c'est ce que j'essaye d'exprimer. Voilà.
Et seulement 5 pénaltys.
Alors, est-ce que le soulier d'or, c'est celui qui a marqué le plus de buts, ou est-ce que c'est le pur avant-centre? Est-ce qu'on pourrait peut-être pas réfléchir plus au fond qu'à la pure forme? Parce que là, en l'occurrence, les chiffres me paraissent assez fumeux.
Non, c'est que la fin.
Mais c'est très sympa de tout remettre en cause.
J'essaye.
Mais c'est pas la faute de Cristiano Ronaldo s'il n'y a pas le même nombre de journées dans chaque championnat. Deux.
Non, mais d'accord.
C'est un penalty, c'est un but. Ça vient parfois en Coupe du Monde, des finales de Coupe du Monde se jouent sur une séance de tir au but.
Oh oui.
Donc, dire que l'exercice du tir au but, du penalty, c'est accessoire, le balayer d'un revers de main. Je suis très choqué dans une émission de football, David. Très
non,
choqué quand même.
La question se pose parce qu'effectivement, la proportion est vraiment très différente entre les deux buteurs du championnat d'Italie. Donc 12 penalties pour Cristiano Ronaldo, 14 pour Tirer au Immobile, alors que Jamie Vardy, 4 penalties en Angleterre, Lionel Messi, 5 et donc Lewandowski, 5 aussi.
Ça veut dire que dans cet exercice-là, il est réussi encore et qu'il est encore performant et que c'est un exercice de folie parce que ça fait quand même à peu près 15 ans qu'on le connaît, Cristiano Ronaldo. Donc on pourrait dire que gardien qui savent un petit peu comment il va faire. Eh ben non, visiblement.
Non, c'est un vrai boulot, on est d'accord.
Bah oui, mais Zlatan Ibrahimovic qui a dû rater un penalty en 4 saisons au Paris Saint-Germain, il les mettait tous et moi je dis ça, bravo quoi, il faut les mettre les penalties, c'est pas facile.
Jean-Yves Guémot.
Pour revenir aux penalties, il y a des clubs, on sait par exemple qu'au Barça, Messi est pas super bon. Donc comme tu dis, c'est un exercice qui est pas évident. A priori, Cristiano Ronaldo est au top, même s'il en a raté un ou deux, mais bon. Ça fait partie des buts marqués. Ensuite, c'est marrant parce que le soulier d'or avant, c'était pas un trophée individuel que les gens recherchaient. Enfin, que les top joueurs recherchaient. Bon, on sait qu'avec Cristiano Ronaldo, il veut tout gagner, soulier d'or, ballon d'or, bol d'or, disque d'or. Enfin, lui, il veut tout, donc on le sait.
Et là, il a l'occasion de devenir le premier buteur de l'histoire à avoir été sacré meilleur buteur en Première Ligue, en Liga et en Serie A.
Mais jusqu'à 40 ans, il aura ce genre d'objectif dans la tête. Donc si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Donc il y a rien de surprenant. Non, ce qu'il y a de surprenant, c'est que maintenant, dans l'univers hyper concurrentiel, du côté des joueurs, c'est que maintenant, tous les trophées individuels, on cherche à les décrocher. Et c'est valable aussi pour les clubs. Maintenant, jouer une Coupe de la Ligue, avant, bon, c'était un peu secondaire. Mais maintenant, les clubs aussi se rendent compte que tous les titres comptent. Donc
c'est
voilà,
le,
on en est là.
Le sport le plus individuel des sports collectifs, le football.
Mais dans tous les domaines, maintenant, on veut tout gagner.
Le foot a une tendance que tu viens de décrire, qui est quand même extrêmement individualiste, quoi. C'est ça qui parfois
c'est pour ça que Ramos tire les pénaltys au Real parce que Benzema se sent peut-être pas très à l'aise, et au Barça, c'est Suarez ou alors qui est parce que justement.
J'ai vu Griezmann, un joueur fantastique, en raté.
Voilà, c'est ça.
Et pourtant, on peut pas dire que c'est pas un joueur fin et technique.
Cristiano, il se présente, il tire, il prend ses responsabilités. Donc, à Lewandowski, maintenant, d'aller taper sur l'épaule de Thomas Müller. J'y vais,
c'est déjà un peu le cas.
Là, il va avoir du mal parce que la saison est un peu terminée en Allemagne.
Je sais. Non, mais la saison prochaine.
vous enfoncez dans une impasse, je pense, Dominique, parce que certes, les coups de pied arrêtés
j'aime
sont très importants.
J'aime votre ton respectueux déjà. Votre ton extrêmement respectueux déjà me fait plaisir.
Non, mais certes, les coups de pied arrêtés sont très importants. Il y a eu des moments magiques sur des corners, sur des coups francs directs et indirects, des pénalties aussi évidemment, et la dramatique, la dramaturgie qui va avec. Mais après, il faudrait se poser la question, là, en fin de saison, est-ce que ces acteurs-là, et quand je dis acteurs, ce sont évidemment les joueurs, les buteurs, mais peut-être aussi l'environnement autour d'eux, est-ce qu'on va pas chercher à favoriser, à marquer des buts en plus, des buts bonus, alors que la saison ailleurs est terminée, un petit pénalty par-ci, un petit pénalty par-là?
Bien sûr que ça joue.
Bon, mais vous savez que l'année dernière, il y a deux ans, Kylian Mbappé, il avait dit, en recevant un trophée, j'aimerais avoir plus de responsabilités, sinon j'irai voir ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il avait joué à gauche les deux derniers matchs, et lui, il voulait les jouer dans l'axe pour battre Messi au soulier d'or.
Mbappé ne tire pas les pénaltys prioritairement
voilà.
Au PSG.
Voilà. Et donc ça devient une obsession. Mais le monde du foot est fait pour que ça devienne une obsession.
Mais de plus en plus.
Chez Cristiano Ronaldo, ça a un côté un peu dérisoire et peut-être pathétique, ouais. Mais ça aussi, on le connaît, ça le motive en fait. Il se donne des challenges comme ça pour rester à 35 ans la machine qu'on connaît.
Ce qui est assez remarquable.
Mais c'est fou. C'est génial en fait.
Évidemment.
Alors on parle de.
Mais Messi, il est pas loin. Hein.
Là, il y a une émulation.
Ça fait 15 ans qu'on est sur cette tendance Messi-Ronaldo et ça.
Il y a eu Luis Suarez à égalité avec Ronaldo en 2014.
Ouais.
Quand même. Et Diego Forlán en 2009 quand il jouait pour l'Atlético.
Il y a toujours un petit intrus comme ça qui vient se glisser.
Un intrus. De temps en temps.
Il y a Federer, Nadal et Djokovic quoi.
Ouais. Et Djokovic, attention, il commence à prendre du palmarès. Hein.
Alors on va y rattraper. On le fera dans tennis, foot.
On parlait de l'envie de Cristiano Ronaldo de remporter ce soulier d'or. Écoutez ce que dit Ciro Immobile, qui est lui aussi candidat.
Être soulier d'or et terminer meilleur buteur de Serie A, ce sont mes objectifs principaux. Après, c'est vrai, battre le record d'Higuain vient en second pour moi. Soulier d'or, je ne l'ai jamais gagné. J'en étais très proche, il y a deux ans. Mais ça ne s'était finalement pas fait. En revanche, capocannoniere, ce serait ma troisième fois. Mais bon, ce serait bien aussi.
Capocannoniere, pardonnez mon accent, meilleur buteur de Serie A. Et le record d'Higuain dont parle Immobile, c'est 36 buts inscrits en championnat sur une saison. Personne n'a jamais fait mieux en Italie. Le soulier d'or pour Immobile, ce serait une belle récompense pour lui qui est quand même assez souvent éclipsé par l'omniprésence de Ronaldo.
Là, vous nous avez cassé le rêve, là, Marie-Amélie, parce qu'on était sur Cristiano Ronaldo, on était sur Lewandowski, on était sur des joueurs magnifiques.
Il est toujours en lice.
Oui, mais là, on descend.
34 buts, lui aussi.
On descend quand même d'un cran dans les grands attaquants. On a parlé de joueurs fantastiques qui vont rester dans l'histoire du football pour moi. Même Lewandowski va rester d'une certaine manière dans l'histoire du football. Ciro Immobile, malheureusement, j'ai beaucoup de respect pour lui. Ça reste un grand avant-centre, mais pas un grand attaquant.
Non, mais c'est je suis pas d'accord. En Italie, ils ont vraiment la culture du numéro 9, de l'avant-centre, et ils sont en panne depuis un paquet d'années. Ça aurait dû être notre ami Balotelli. Enfin bon, il a pas tenu ses promesses. Le dernier en date, le grand renard, enfin le grand marqueur, à mon sens, c'était Inzaghi. Et en Italie, c'est important. Et ça va de pair une fois de plus aussi avec la squadra, la sélection italienne. C'est plutôt un bon signe qu'Immobile se finissent meilleur buteur du championnat italien. On a le culte du numéro 9. Mais alors, malheureusement, il s'est pas imposé en équipe d'Italie. Donc,
tu reconnais que c'est pas un grand attaquant, quand même.
Je viens de le dire. Il s'est pas imposé en équipe d'Italie. Donc,
oui, t'es d'accord, en fait. T'as commencé par dire que t'étais pas d'accord.
Non, mais c'est bien, comme ça s'appelle dans le football italien, c'est bien aussi qu'on finisse avec un buteur italien. Ils sont à la fois la culture du numéro 9 et ils sont très chauvins. J'y peux rien, c'est comme ça.
Cristiano a 35 ans, qu'il le fasse son record, là, des trois championnats, Marie-Amélie le disait, dans les trois qu'il a fait, l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre pour commencer. Comme ça, il nous embêtera plus avec ça, quoi. Il passera à autre chose.
Là, on parle de Cristiano Ronaldo.
Bah oui.
Messi,
je vous attendais un peu plus incisif sur Robert Lewandowski.
Non, mais je suis partagé parce que ce que disent les deux messieurs-là me parle aussi, c'est-à-dire que le pur avant-centre, et on pourra en citer des moins bons, pour faire plaisir à Matteo qui nous écoute peut-être plus à cette heure-là, mais des joueurs comme Daniele Massaro, par exemple, au Milan AC, lorsque le Milan n'était pas forcément une très belle équipe. Non, mais voilà.
Oui, mais c'était.
Mais là, on parle de. Avec Lewandowski, on parle sans doute d'une palette beaucoup plus complète, sans parler des Messi et Cristiano Ronaldo. Donc après, voilà, est-ce qu'on veut aussi couronner et s'incliner devant le pur finisseur J'en ai cité un comme ça là au Milan AC, mais il y en a plein d'autres, surtout en Italie. Ou bien des joueurs plus complets qui feront plus unanimité, qui plairont plus à des gens qui ont des réflexes différents et des profils différents, pas seulement des finisseurs, des joueurs qui sont des solistes, qui sont capables de faire des chevauchées. C'est pas forcément le cas d'Immobilier, mais il a pas moins de valeur pour autant.
Alors à nos amis auditeurs, on va préciser que David Lortolari est
Daniele Massaro
est prof de gym, donc. En tant que prof de gym, la note artistique compte pour David Lortolari.
Il a raison.
Je peux comprendre, il a raison.
Il a raison.
Non, mais justement, je suis pas sûr. Je suis partagé là-dessus.
Non, mais le finisseur pur, c'est un côté un peu restrictif.
Le meilleur, le plus complet pour moi, c'est Lewandowski. Voilà, je veux dire, bon, il a 34 buts. Bon, je souhaite pour lui qu'il finisse à 34 buts et qu'il ait le soulier d'or parce que il est
51 toutes compétitions confondues cette saison.
C'est énorme. C'est régulier, c'est du pied, enfin c'est du droit, de la tête, du gauche. En plus, il participe au jeu. Il donne aussi des buts, il crée des pistes.
Plus complet que qui, Chérif? Plus complet que Messi? Plus complet que qui?
Lewandowski.
Oui, plus complet que qui?
Que Tiro Immobilier, je pense.
C'est plus complet, je veux dire. Jeu de tête, mais pied droit, pied gauche.
Que Messi?
Cette saison, que tout le monde.
Que
tout le monde.
Messi. Ah non, d'accord.
Mais pourquoi, qu'est-ce qu'il a, Messi? Il marque du droit,
qu'est-ce
il marque
qu'il
de
qu'il a, Messi?
Vous ne voyez pas la tête de Dominique Sévrac, mais elle est assez évocatrice.
Messi, quand même, non?
Non, mais au bout d'un moment, on parle de foot, on parle de sport, on parle d'attaquant. Donc c'est bien comment que tu appelles.
S'il y avait un ballon d'or cette année, tu donnerais plus à Lewandowski qu'à Messi. Donc
soulier d'or, j'ai dit ballon d'or.
Non, t'as dit soulier d'or, mais si.
Ouais, non, soulier d'or. Non, c'est le plus complet. Lewandowski est plus complet, plus.
Bon, j'ai même pas besoin.
Alors, non, mais le truc, c'est que la saison n'est pas finie. Ce qui va décider tout ça, c'est aussi la fin de la Ligue des Champions. Donc, attendons de voir.
Bon, on va rester sur le soulier d'or. Et quoi qu'il arrive, on connaîtra celui de la saison 2019-2020 la semaine prochaine, à la fin de la 38e journée et dernière journée de Serie A. Et d'ailleurs, j'en profite, ce soir, début de l'avant-dernière journée avec Parme, Atalanta et Inter Milan, Napoli. Maintenant, on reste dans le sud, mais du côté du Rocher.
Niko Kovac est le quatrième entraîneur de Monaco en 20 mois.
Monaco is a big, big club with a big tradition.
Niko vient à Monaco pour continuer à ouvrir un nouveau chapitre. L'arrivée de Niko est un choix fort.
Welcome Niko.
Welcome Niko à Monaco. Niko Kovac, ancien international croate de 48 ans, passé par le Bayer, Leverkusen et Salzbourg entre autres. Il est rapidement devenu entraîneur et le grand public l'a découvert à la tête de Francfort, David Lortolari.
Allez, ok, le grand public, oui, c'est vrai.
Vous allez me parler de la sélection croate?
Oui, effectivement, où avec son frère, ils ont quand même constitué tous les deux pendant longtemps des piliers et dans le sens aussi un peu... Quand je dis pilier, c'est aussi des joueurs rugueux, des joueurs âpres, des joueurs autoritaires vis-à-vis... Oui,
peut-être. Bon technicien et costaud.
Vis-à-vis aussi de leur des joueurs qui étaient autour d'eux, c'est-à-dire que alors j'anticipe peut-être sur les développements des prochaines minutes, mais Niko Kovac c'est quelqu'un qui laisse pas faire quoi, qui est exigeant avec lui-même, avec les gens autour, et depuis qu'il est entraîneur, ça a très bien fonctionné à Francfort parce que Francfort avait besoin de se redresser et il a été assez énergique vis-à-vis de son groupe là-bas. J'ose croire que ce soit possible aussi dans l'environnement de Monaco.
À Francfort, quelle trace il avait laissée? Donc je rappelle qu'il a entraîné Francfort entre 2016 et 2018.
Il a fallu d'abord lutter pour ne pas descendre, ce qui aurait été assez traumatisant dans une ville aussi grande, aussi dynamique, aussi puissante sportivement et économiquement que Francfort. Ça, il l'a réussi et on pouvait imaginer qu'un homme à poigne comme lui, ça soit une mission pour lui. Mais derrière, il a su aussi inculquer à ses joueurs non seulement cette haine de l'échec, mais en plus
une culture
de la gagne.
C'était beau à voir jouer aussi l'équipe de Francfort, il me semble.
On peut même aller jusque-là.
En Europa League, je me rappelle de mon match.
Ils ont gagné la coupe en Allemagne, alors on pouvait dire voilà, c'est un coup, c'est un one shot, enfin comme ça c'est ponctuel, et Kovac en tenant fermement les rênes peut pendant 6 mois, 12 mois jusqu'à peut-être 18 mois emmener une équipe loin et ensuite peut-être commencer à la carboniser un peu. C'est ce qui s'est passé dans un deuxième temps. Et après, à Munich, le problème est tout à fait différent puisqu'il n'avait pas du tout les mêmes égos à gérer.
David, c'est quand même pas une progression de passer du Bayern Munich à Monaco. Nous, pour la Ligue 1, ça serait une attraction. C'est génial de voir Niko Kovac sur un banc de Ligue 1 et de voir son expérience et tout ça. C'est pas de problème. Mais on va pas m'expliquer qu'après avoir fait le Bayern de Munich, le plan de carrière des entraîneurs, c'est de finir à Monaco.
Mais il a essayé de surnager à Monaco, de ne pas se noyer, de ne pas couler à Monaco en brassant beaucoup. Et donc il s'est un peu épuisé à Munich.
Oui, j'avais perdu.
Mais parce que Monaco veut dire Munich aussi dans d'autres langues, donc je suis en train de tout mélanger.
C'est vrai, on dit Monaco, ouais. Bayern Monaco.
Ouais, absolument.
Donc le Bayern était probablement à ce moment de son parcours trop grand pour lui. C'était un entraîneur jeune, Marie-Amélie.
Oui, c'est braqué contre le vestiaire.
Voilà, avec des joueurs qui comme Thomas Müller, qui est symbolique, qui voulait absolument pas faire de concessions. Donc il y a eu un blocage à Monaco, mais ça veut pas dire Munich. Décidément. En Bavière.
En Bavière.
Mais ça ne veut pas dire que...
Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un peu comme Emery qui a signé à Villarreal, et à un moment donné, tu es sur un domaine de une limite de compétences quand tu
peut-être,
vas
voilà,
le PSG et Arsenal.
Très grand club
voilà.
Pour l'instant.
À un moment donné, tu redescends à un niveau qui est plus acceptable. À Monaco, dans la paix, Monaco, il n'y a personne. Il n'y a pas de public, il n'y a pas de pression. Ça, à mon avis, c'est parfait pour lui. Il n'y a pas à investir de folie.
Oui, mais...
Donc voilà, à mon avis, il revient à ce qu'il connaît.
Je suis pas entièrement d'accord. Est-ce qu'il y a une progression?
T'as essayé de pas être d'accord surtout.
Non, mais Monaco, ça parle quand même un peu à l'étranger. Ils ont plutôt pas mal réussi en Coupe d'Europe pendant la décennie des années 2010. Monaco, on sait aussi que c'est un grand club formateur. On sait Thierry Henry, Trezeguet, enfin tous ces joueurs qui sont sortis, Thuram, Petit. Donc Monaco, ça parle un peu à l'étranger. Il y a un statut fiscal qui fait qu'on est bien payé, que ce soit les joueurs et l'entraîneur. Donc il y a quand même une petite force d'attraction. Je pense que Niko Kovac a des compétences, mais moi c'est pas ça qui me dérange et qui m'inquiète, c'est le climat, enfin je veux dire la politique sportive du club de Monaco.
Oui, qu'est-ce que va pouvoir faire Niko Kovac à Monaco?
On a parlé de, c'est le quatrième entraîneur en 19 mois ou en 2 ans, enfin bon peu importe, il y a un turnover hyper accéléré. Jardim a fait ce qu'il a pu, mais à partir d'un moment quand vous vendez tous vos joueurs qui commence à avoir du talent, qui commence à se faire repérer. Si vous les vendez systématiquement, vous faites... Parce qu'au niveau du business, le bilan est positif pour les Russes.
Ah oui, c'est... oui, évidemment.
Voilà.
Mais maintenant, il y a plus de 60 joueurs sous contrat à Monaco.
Et il y a un nouveau directeur de football.
On va pas passer cet été de 60 à 23. Hein, faut pas rêver. On va peut-être en vendre 10, 15, on va en prêter... Et en plus, on continue de tester des joueurs. Ça s'arrête pas. On s'imagine que c'est bloqué à 60. Non, on continue de tester des joueurs. Donc, c'est un peu ça. C'est le projet sportif. On en est où? Les ambitions, elles en sont où? Elles sont vaguement de qualifier l'équipe en Ligue des Champions tous les ans. Mais tous les clubs veulent se qualifier.
Mais c'est le vrai problème de Monaco, en fait. On voit pas trop le projet sportif, en fait.
Il y en a pas.
Il y a une nébuleuse, il y a une lessiveuse, il y a, comme vous le dites, il y a beaucoup de contrats comme ça. On sait pas trop, il y a des rumeurs. Est-ce que c'est pour cacher autre chose? Mais où est le foot là-dedans? Monaco, depuis quelques années, depuis la demi-finale de Ligue des Champions en 2017 contre la Juventus et le titre de champion de France, moi j'ai complètement perdu le fil. Je ne sais plus où ils vont. Ils ont fait du trading, ils ont vendu tous leurs joueurs.
Ils sont bénéficiaires.
J'ai bien compris, mais après je n'ai plus compris. Jardim revient, là j'ai compris que si Kovac saute, c'est Jardim qui revient pour la.
C'est possible. Je plaisante à peine.
Mais justement, c'est peut-être l'homme qu'il faut. Alors évidemment, à condition que on ne l'empêche pas de travailler comme il l'entend sportivement. Bien sûr, et c'est sans doute ça la vraie grande question au-dessus de lui. Mais c'est sans doute l'homme qu'il faut justement pour gérer ça, parce que il a fait l'expérience à Francfort d'abord avec un groupe qu'il a un peu essoré, il faut bien le dire. Puis à Munich où il a joué sur les deux options. D'abord faire beaucoup de turnover, ensuite ne plus en faire du tout. Et finalement, c'était peut-être entre les deux que ça se jouait. Mais donc, il est capable individuellement dans le cocon de son staff, avec son frère en particulier, parce que il travaille beaucoup en symbiose, de prendre des décisions fortes, quitte peut-être à essayer de jouer avec les 11 mêmes pendant 38 journées, quoi.
C'est quoi sa politique avec les jeunes, Kovac?
Justement, il a expérimenté les deux. Il est tout à fait, de ce que j'en retiens, il est tout à fait capable d'avoir le courage de lancer des joueurs et de leur faire confiance pendant un bon moment.
Des jeunes, on parle, hein.
Oui, des jeunes, mais des jeunes qui ont du talent quand même.
Ah oui, non, mais on est d'accord.
Et à côté de ça, Chérif, on est obligé de dire aussi que je pense que Kovac va tirer un maximum ouvrir un maximum de tiroirs et tirer un maximum de ficelles pour faire venir aussi quelques gros calibres.
Quel rapport il a avec Ribéry, par exemple? Parce que Ribéry pourrait ne pas rester en Italie après des histoires extrasportives. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il vienne à
finir... J'ai pas connaissance d'une
Dominique
love story.
Dominique aimerait refaire venir Ribéry en Ligue 1.
Ah oui, moi j'ai vu ça.
Ouais, j'ai pas connaissance d'une love story particulière entre les deux.
Il avait plutôt bien géré la fin de carrière de Ribéry et de Robben.
Ouais, c'est vrai, mais à ce moment-là, c'était des joueurs... au fait, à l'apogée, je veux dire.
Oui, mais une dernière piche sur le rocher.
Ouais, inconditionnel. Alors, je sais pas. Pourquoi pas? Pas d'infos à ce niveau-là.
Mais Robben va non plus, hein.
Robben va rejouer aussi, hein. Donc, on va reconstituer l'attaque.
Aux Pays-Bas d'abord, mais.
Ouais, ouais.
Il a une philosophie de jeu particulière, Kovac. C'est un entraîneur plutôt porté sur l'attaque.
Non, on peut pas simplifier. On peut pas simplifier à ce point. On peut pas dire qu'il soit défensif, qu'il se recroqueville. On peut pas dire qu'il soit non plus. Je jette tout vers l'avant. Ça correspond pour le coup, et c'est pas toujours le cas parce qu'il y a des contre-exemples. Ça correspond un petit peu au profil qu'il avait comme joueur. Ou quand il était joueur, il était déjà un peu entraîneur, mais il était surtout un milieu de terrain défensif, un peu relayeur. De ce que j'ai vécu à Francfort d'abord, et ce qu'il a essayé de faire avec le Bayern après, et qui lui a été reproché, c'est plutôt réaction, action, action, réaction. C'est-à-dire que on va adapter aussi l'équipe, vraiment, en fonction du profil de l'adversaire. Et il n'y a pas une philosophie forte comme on peut connaître chez Bielsa, chez Guardiola.
C'est un pragmatique.
Je pense plutôt.
Il s'adapte à l'adversaire.
Exactement.
Avec Kovac, quels peuvent être les objectifs de Monaco cette saison ?
Ah bah c'est Ligue des Champions. Je vois pas pourquoi et comment on pourrait imaginer qu'il faille attendre deux saisons pour qu'un entraîneur comme Niko Kovac, de ce que lui va vouloir et de ce que ses dirigeants vont attendre, mettre deux ans avant d'arriver à une qualification pour la Ligue des Champions. Ça va être l'objectif, va être dans les cinq.
C'est une équipe qui est en souffrance depuis quand même une saison. Elle a fini combien là?
Neuvième.
Neuvième, donc avec le championnat arrêté à la 28e journée.
Des hauts et des bas, il y a eu des bons moments.
Il avait eu le temps avec Francfort.
C'est une équipe qui aurait pu être encore plus basse si le championnat avait continué.
La Ligue 1 étant ce qu'elle est, tout est possible. Les ambitions sont affichées, c'est-à-dire aller en Ligue des Champions. Maintenant, avec quel groupe, quelle équipe?
Ça peut paraître paradoxal ou complètement lunaire même, mais le mercato va être quand même déterminant à Monaco, même s'ils ont donc une soixantaine de joueurs sous contrat. Ouais. Par exemple, le Sénégalais Keïta Baldé est sur le départ, et surtout va se poser la question de conserver ou non Wissam Ben Yedder.
Bah oui, qui est un joueur l'une des rares valeurs marchandes et satisfaction. Donc forcément, il a une valeur sur le marché. Donc il va être attaqué entre guillemets par d'autres clubs une fois que le mercato va vraiment se lancer, on va dire fin août début septembre.
Ça va durer longtemps.
Ouais. Ça finit 5 octobre, une fois que la Ligue des Champions sera terminée, il y aura plus de visibilité pour les clubs, les championnats vont reprendre, donc ils vont vouloir reconstituer un effectif. Et moi, je trouve que ça a été une des vraies réussites de Monaco cette année, c'était Ben Yedder, et même son association avec Slimani qui a été un temps, puisque quand Moreno est arrivé, il a un peu cassé le moule.
Ben Yedder, il y a l'Euro quand même à la fin de la saison. Par prudence, si l'équipe de Monaco est compétitive, je ne tenterai pas le diable à l'étranger.
Et Slimani, vous disiez, Dominique, qui est...
C'est flou.
Oui, dont le prêt est terminé, donc il est censé repartir à Leicester, mais...
C'est là qu'on va voir les ambitions sportives, la vision, c'est qu'est-ce que veulent faire les dirigeants, qu'est-ce que Kovac veut faire, qui veut-il faire venir.
J'espère qu'il a vu les matchs avant Moreno.
Bah oui, mais c'est ça. C'est
Mais est-ce que Monaco attire encore les joueurs aujourd'hui?
Chérif en a parlé, il y a une fiscalité qui permet aux étrangers de ne pas payer d'impôts.
Sans parler des sous.
Il y a encore du prestige. Je suis désolé.
Ils sont pas qualifiés pour la Coupe d'Europe.
Ah non, ça c'est évident. Mais
autant aller à Lyon ou à Marseille, quoi, ou à Rennes.
Lyon, je sais pas si c'est l'avenir actuellement, mais on sait que de Monaco, ils ont fait deux magnifiques saisons en Ligue des Champions. Ça marque toujours les gens parce qu'on retient quand même un demi-finaliste en Ligue des Champions. C'est pas neutre. Une fois de plus, il y a la formation, il y a la qualité de jeu. Donc il n'y a pas la Ligue des Champions, cette saison, mais il y a quand même des ambitions. C'est un club qui parle, ça parle à l'étranger, Monaco.
Bon, ma chérie, vous aurez eu le mot de la fin. On va s'arrêter là, messieurs. Merci beaucoup à tous les trois, Chérif Guémour, David Lortolari et Dominique Sévrac. Merci à notre équipe de réalisateurs du jour, Pierre Cognard, Laurent Serrano et à Tom Rossi également. Demain, vous retrouverez Christophe Jousset. Passez une très bonne soirée sur RFI.